nous nous retrouvons pour une série
consacrée. Nous attachons à quatre faits marquants de votre vie.
Nous passons une demi-heure ensemble pour...
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, peut-être vous êtes-vous déjà posé la question de savoir de quand datent les premiers insectes ? Eh bien, les chercheurs aussi. Plus exactement, les paléo-entomologistes cherchent à connaître de quand date la sortie des os des premiers insectes, ainsi que l'apparition des lignées ailées. Pour y trouver des éléments de réponse, une équipe de chercheurs français du Muséum et du CNRS mène une expédition au Spitzberg, à l'est du Groenland, du 8 juillet au 8 août 2010. Pour en parler avec nous, 48 heures avant le grand départ, Romain Garouste est avec nous. Romain Garouste, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous au studio de Canal Académie. Vous êtes entomologiste, écologue, paléo-entomologiste, chercheur au Muséum national d'histoire naturelle et à l'Université du Sud Toulon-Var. Romain Garouste, pourquoi mener cette expédition au Spitzberg ?
Alors le Spitzberg, c'est un choix qui nous a été... dicté par l'extraordinaire qualité de la préservation des couches géologiques de cette région polaire, arctique, et également par son éloignement qui fait qu'il y a très peu de travaux qui ont été menés. Et en tout cas, nous serons les premiers à y rechercher ce type très particulier de fossiles que sont les fossiles d'insectes.
Je crois qu'au Spitzberg, on retrouve, déjà pour donner quelques idées un peu à nos auditeurs, on retrouve des coquillages très anciens, où on retrouve même les parties molles de ces coquillages. Donc j'imagine que vous avez de nombreux espoirs quant aux insectes.
Alors oui, cette qualité de préservation, on la retrouve à la fois pour les organismes marins, donc pour tous les sédiments marins, qui s'étagent, on va dire, du dévonien jusque, jusqu'à l'ère actuelle, jusqu'au quaternaire. Donc ça fait vraiment un enregistrement très complet des sédiments. Mais on le retrouve également pour les sédiments vraiment continentaux qui concernent la décharge des rivières, le comblement de lacs, vraiment le fonctionnement des continents, donc là non plus des mers, mais des continents, qui vont enregistrer des fossiles, des informations paléo-environnementales sur la biodiversité de ces continents. Et c'est ce qui nous intéresse.
Qu'est-ce qui explique cette conservation incroyable ? Pourquoi plus au Spitzberg qu'ailleurs ?
Alors, je crois qu'on peut considérer que le fait qu'il y ait eu, depuis très longtemps maintenant, donc une migration de cette région vers les régions polaires, avec donc une érosion de type glaciaire, fait qu'il y a très peu en fait, d'oxydation de ces couches sédimentaires. Et on a une abrasion et une formation de sol relativement faible qui fait que l'on a accès à de la roche-mère de très bonne qualité, sans une forte dégradation.
Peut-être une question bête, mais comme on est dans la zone arctique, est-ce que le froid joue en faveur de la conservation de ces fossiles ?
Alors, pas de la conservation des fossiles directement, mais en tout cas celle des roches. En tout cas, le fait que ces roches ne se dégradent moins, et en plus elles ont été recouvertes pendant très longtemps d'un inland 6, donc polaire, très important, qui est en train, et ça c'est ce qui nous intéresse, vous voyez que le réchauffement climatique n'a pas que des inconvénients. Nous, en ce qui nous concerne, ça va nous permettre d'aller dans des vallées glaciaires qui sont en train de se découvrir et nous serons peut-être les premiers, ça c'est très intéressant, nous serons peut-être les premiers à aller voir ces affleurements, je dirais, dans l'histoire récente de la recherche.
Alors, vous le dites plusieurs fois, les premiers à mener cette recherche, est-ce que la paléo-entomologie est une discipline récente ? Parce qu'à vous écouter, on a l'impression qu'on débute un peu en la matière.
Bien, c'est à la fois une discipline très ancienne et une discipline récente. Discipline très ancienne parce que, bien entendu, on a trouvé des fossiles d'insectes il y a bien longtemps. Et je dirais que la recherche française est à l'honneur en ce qui concerne les premières études sur les fossiles d'insectes. On a une des plus belles collections au Muséum national d'histoire naturelle qui concerne ces fossiles, notamment dans les couches carbonifères de divers gisements français. Ça correspond tout simplement aux exploitations de charbon dans diverses parties de la France, du nord de la France ou du centre de la France. On peut citer le plus connu d'entre eux, qui est connu mondialement, qui est le site de Comintry, donc dans le centre de la France, qui a livré des fossiles tout à fait extraordinaires, de cette faune carbonifère avec des libellules géantes, des blattes géantes, etc., donc qui peuvent atteindre 70 à 75 cm d'envergure. Mais c'est une discipline qui a été effacée par, l'engouement qu'a eu la paléontologie des vertébrés. Tout de suite, après cette période du 19e siècle, où ont été découverts les gisements de Comintry, Et je crois qu'à travers la recherche des informations sur les vertébrés, je crois que l'on a toujours été un peu à la recherche de l'origine de l'homme, ou en tout cas de ce qui le touchait de près. Les insectes ont toujours intéressé, bien entendu, les chercheurs de l'actuel. Donc comprendre la biodiversité des insectes actuels, c'était déjà un vaste programme, on peut le dire. Ça l'est toujours. Mais s'il fallait en plus s'occuper de la diversité passée, qui était forcément aussi également importante, eh bien je crois que ça a été un petit peu négligé et on est en train de la redécouvrir. On est en train de remettre au goût du jour, on est en train d'utiliser aussi de plus en plus de nouvelles technologies qui permettent d'avancer vraiment beaucoup mieux sur la compréhension de ces lignées, de cette évolution qui est quand même assez complexe, foisonnante, s'il en est, bien entendu, qui est à l'origine de cette biodiversité actuelle. Et on est en train aussi de se poser la question, c'est que pour comprendre la biodiversité actuelle, on est obligé de comprendre l'origine de cette biodiversité. L'origine de cette biodiversité, on va forcément l'étudier, on va la retrouver dans le registre fossile.
En off, vous parliez d'un puzzle, et c'est comme si vous aviez quelques pièces du puzzle, et à vous de reconstituer la peinture, en tout cas la fresque chronologique de toutes ces espèces.
Voilà, donc ce buisson foisonnant, on essaye de le reconstituer lignée par lignée. Et le registre fossile est forcément incomplet. Il est incomplet de deux manières. Il est incomplet parce que de toute manière, nous ne l'avons pas encore retrouvé de manière intégrale. Et il est de toute manière incomplet parce que la fossilisation ne se fait pas de manière, je dirais, homogène pour l'ensemble des lignées, pour l'ensemble des taxons. Donc il y a forcément des trous, des manques qui existeront toujours. Ça, on n'y peut rien. Donc forcément, dans la connaissance d'un temps donné, actuel par exemple, quand on dit une lignée, elle part de temps à temps, eh bien c'est pratiquement, une erreur statistique. Voilà, c'est par rapport à ces gisements que l'on a retrouvés, mais qui ne sont pas forcément ni les plus vieux ni les plus récents, mais qui sont ceux que l'on a trouvés. Donc ce n'est pas parce que l'on a trouvé le premier insecte actuellement, on va dire, dans le dévonien moyen autour de 400 et quelques millions d'années, que la lignée n'est pas beaucoup plus ancienne.
Alors Romain Garouste, qu'est-ce que l'on sait actuellement sur les insectes fossiles ?
Eh bien, on trouve des insectes fossiles depuis ce début de cette lignée, donc ce qu'on appelle les hexapodes, en fait. Donc, on distingue les insectes des hexapodes, les hexapodes étant une partie un peu plus englobante que les insectes du sensu stricto. Donc, les hexapodes primitifs étaient ce qu'on appelle les collemboles, donc des petits insectes non volants qui vivaient probablement dans les sols et qui seraient apparus en venant du milieu aquatique marin. Donc, l'hypothèse actuelle, ce sont des crustacés marins qui seraient sortis donc de la mer, sortis du milieu marin, pour venir conquérir ce milieu terrestre, continental, à partir de premiers sols, qu'on appelle les paléosols, et dans des milieux qui pourraient être, par exemple, des mangroves.
Et c'est justement ce que vous aimeriez démontrer à travers cette expédition, puisqu'il y a à la fois des sédiments marins et continentaux au Spitzberg.
Alors voilà, on a retrouvé des faciès, qui sont des faciès littoraux, qui seraient des paléomangroves. Donc on est tout à fait, en tout cas pour la partie dévonienne, dans ce genre de configuration qui pourrait nous permettre de trouver ces premiers habitats favorables à cette sortie des eaux de cette lignée extraordinaire que sont les insectes.
Au début de cette émission, je parlais aussi de la possibilité de dater l'apparition des lignées ailées. Alors, quelle est l'hypothèse en vogue ? Parce que j'imagine qu'il y a plusieurs hypothèses qui pourraient expliquer l'apparition des ailes chez les insectes.
Alors, c'est l'avantage du Spitzberg, c'est que l'on a donc des sédiments qui sont un peu plus récents, qui sont le début du Carbonifère. Et au début du Carbonifère, on sait que nous avons eu l'apparition, en tout cas l'état des connaissances est tel que nous avons l'existence de lignées, effectivement, ailées dans ces sédiments. Et donc ce que l'on va chercher, c'est justement la situation intermédiaire. Alors l'apparition de ces lignées ailées, elle est toujours, on va dire, énigmatique, même s'il y a plusieurs hypothèses qui sont la transformation de branchies à partir de larves aquatiques, la transformation simplement de parties du thorax en palettes qui aideraient les organismes à se déplacer dans les premiers arbres, dans les premières frondaisons des végétaux un peu hauts. Il y a deux ou trois autres hypothèses qui sont moins importantes, mais c'est vraiment ces deux-là, donc à partir des branchies et à partir, si vous voulez, d'expansion, sans être des ailes articulées, mais d'expansion qui faciliterait le glissement dans les airs. Donc pour, par exemple, pour attraper des proies, ou pour pouvoir simplement glisser d'un arbre à l'autre, enfin d'un végétal à l'autre pour s'en nourrir.
Et là, on serait à l'ère du dévonien inférieur, à peu près ?
Non, plutôt le carbonifère.
Carbonifère.
Oui, début du carbonifère, carbonifère moyen.
Donc, si on refait cette chronologie, puisque vous nous avez parlé du carbonifère, il y a le dévonien et ensuite le carbonifère avec ces insectes géants.
Voilà, donc la fin du carbonifère et le début du Permien sont caractérisés par des lignées d'insectes volants que l'on peut qualifier de géants, même si on pense que malgré la taille des ailes importantes, le corps était peut-être un peu moins important que le corps des insectes actuels. Enfin, disons la proportion, parce qu'on trouve souvent plutôt les ailes et non pas les corps. Mais quand on retrouve des corps, on est toujours un peu surpris. Bon, il y a la fossilisation aussi, qui est un artefact, en fait, sur la morphologie de nos fossiles. Mais on est toujours un petit peu surpris. En fait, on a envie de dire, quand on s'intéresse aux insectes de l'actuel, il y a encore des insectes géants sur la Terre.
Alors, vous allez donc au Spitsberg. Le Spitsberg dépend, il me semble, de la Norvège. Est-ce que vous allez travailler avec les Norvégiens? Est-ce que vous allez travailler avec des chercheurs d'autres nationalités que françaises?
On est un groupe de chercheurs français, mais nous avons un chercheur libanais avec nous, mais qui est quelqu'un avec qui on travaille depuis très longtemps et voilà, qui fait quasiment partie de notre laboratoire. Sinon, oui, ces recherches s'intègrent dans des programmes internationaux qui sont plutôt des programmes géologiques. Donc ça, c'est le géologue de notre équipe, Jean-Claude Roy, qui va, dès la fin de notre mission, rendre compte, au cours d'un workshop, de nos résultats auprès donc, des scientifiques norvégiens qui sont en train de faire la carte en fait, de cette région du monde. Donc on va leur apporter, je dirais quasiment en direct, les résultats de nos prélèvements, les résultats je dirais, de l'amélioration de la cartographie géologique que l'on va faire. C'est un peu le but, et c'est pour ça que l'on est tout à fait les bienvenus en Norvège, enfin au Spitsberg, et en Norvège pour cela, et on nous facilite beaucoup les choses.
Donc vous partez un mois du 8 juillet au 8 août, vous allez donc faire des prélèvements, j'imagine, vous allez revenir avec ces prélèvements au muséum pour pouvoir travailler sur ces découvertes, je l'espère, de nouvelles espèces. Combien de temps ça peut prendre entre le moment où vous faites des prélèvements et le moment où vous allez pouvoir dire on a fait la découverte d'une nouvelle espèce qui nous permet d'en savoir plus sur ces lignées?
Alors, comme on va dans des époques où il y a quand même peu de choses, si on trouve, on le saura très rapidement. On n'est pas dans des gisements avec foisonnement de fossiles, etc., dans lesquels il va falloir étudier pour savoir si l'espèce est nouvelle. Là, si on trouve, ça sera nouveau. C'est ça qui est un petit peu intéressant, excitant, hein, de se dire que il va falloir, ça ne sera pas facile, il va falloir qu'on fasse beaucoup de terrain, il va falloir remuer beaucoup de cailloux, comme on dit. Mais si on trouve, ça sera vraiment très intéressant et on le saura de suite. Et dès la rentrée, on pourra probablement publier quelque chose.
Encore alors, j'imagine donc que vous avez beaucoup de pression sur les épaules.
Eh bien, disons que maintenant, l'époque veut que quand on fait de la recherche, on communique. Et là, on a peut-être un petit peu vendu la peau de l'ours.
Alors, vous viendrez nous reparler de vos découvertes. Un mot quand même sur l'équipe. Bien sûr, vous faites partie de cette expédition. Il y a 5 autres spécialistes qui travaillent et qui vont travailler avec vous. Vous en avez parlé au cours de cette émission, mais peut-être redire un mot sur chaque personne pour pouvoir donner un peu sa spécificité et voir un petit peu comment vous allez travailler ensemble. Il y a André Nel, il me semble que vous en avez parlé au cours de l'émission.
Alors, André Nel, c'est notre chef d'équipe, c'est notre paléentomologiste de référence. Il est une référence mondiale en matière de paléentomologie. Son laboratoire auquel j'appartiens, enfin son équipe au sein de l'UMR 7205 au ZEB, en fait, c'est la référence de la paléentomologie dans le monde actuellement. Et donc, nous en sommes tous fiers. C'est là où tous les paléentomologistes du monde entier se réunissent, on va dire, assez régulièrement pour venir travailler avec nous. Donc, c'est André qui a imaginé, effectivement, André Niel a imaginé ce projet en ayant rencontré Jean-Claude Roy, qui est un géologue spécialiste du Spitsberg, et qui nous a proposé ce projet, cette vallée, le Mimerdal, à côté de la ville de Pyramiden, qui représentait en fait donc, cette séquence chronologique tout à fait extraordinaire pour nous, pour essayer de répondre à ces questions évolutives sur l'histoire des insectes.
Donc André Nel, Jean-Claude Roy, également Jean-Michel Bichin.
Alors Jean-Michel Bichin est quelqu'un qu'on connaît bien au muséum, c'est un malacologue et c'est quelqu'un qui, alors spécialiste on va dire de la biodiversité actuelle, donc la malacophone, hein, les petits escargots, les choses comme ça, et il connaît bien le Spitsberg, donc il nous a proposé de s'associer à nous pour lui continuer ses travaux sur la biodiversité du Spitsberg et nous apporter son aide logistique dans le montage de ce projet. Et Cyril Daze, donc du CNRS, également de notre unité au muséum, l'unité de recherche, qui, lui, est un spécialiste des colamboles. Donc, justement, lui, on a besoin de lui, à la fois parce qu'il s'intéresse beaucoup, lui, surtout à la biodiversité actuelle des colamboles, donc de ces insectes, entre guillemets, primitifs, ces hexapodes, dont on espère retrouver les premiers représentants dans ces fameux terrains dévoniens ou carbonifères. Et Dany Azar, c'est notre collègue paléentomologiste de l'université libanaise. C'est un grand spécialiste de l'ambre. Et il s'est mis le défi de trouver de l'ambre au Spitzberg, puisqu'il est l'auteur de plusieurs centaines de gisements d'ambre dans le monde.
Là où vous allez faire des recherches, à l'époque du Dévonien, il y aura de l'ambre ?
Probablement pas, mais disons que rien n'est impossible. Donc il faut se poser la question, il faut se trouver les moyens de le trouver et de le chercher.
Eh bien, je vous remercie, Romain Garouste, d'être venu nous voir 2 jours avant votre départ. J'imagine que vous avez encore beaucoup de choses à préparer avant de partir. Et puis, nous n'hésiterons pas à prendre de vos nouvelles pour savoir quelles ont été les découvertes faites, car je suis certaine qu'il y en aura beaucoup et qu'elles seront nombreuses. Avec une équipe donc composée de 6 personnes, vous les avez citées à l'instant, et vous, bien sûr. Et puis, j'imagine que toutes ces informations seront disponibles sur le site du muséum. Il y aura peut-être un site spécifique consacré à l'expédition du Spitzberg.
On y travaille.
Eh bien, je vous remercie. Et à bientôt alors pour de prochaines informations sur cette expédition au Spitzberg. Merci beaucoup.